Nous vous présentons, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. Dôme. Mise en scène, production Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Ils sont menés au commissariat. Là, au commissariat, on les mène au bureau du commissaire de police. Le commissaire est un homme petit, chauve, en costume gris sale. Massim lui dit, c'est une erreur, monsieur. Le commissaire lui dit, vos papiers. Massim lui montre ses papiers. Le commissaire les lit. Il demande, vous êtes la famille de la banque? Massim lui dit, oui, monsieur, je suis le fils du président. Le commissaire lui dit, bien, c'est une erreur. Pouvez-vous en aller? Massim s'en va. Avec François. Mais le commissaire retient François. Il dit, non, celui-là reste avec nous. Massim lui dit, furieux, il était avec moi. Le commissaire demande à François, vos papiers. François les lui donne. Le commissaire les marque sur une feuille et dit à François, vous pouvez partir. Malheureusement, le commissaire écrit une lettre au séminaire. François est convoqué chez le directeur. Le directeur lui demande, que faisiez-vous dans une manifestation? François lui dit, j'ai été pris par hasard. Le supérieur lui dit, vous sortirez plus. François prévient par une lettre Maxime. Maxime qui va au séminaire expliquer la chose. Il dit qu'ils n'y étaient pour rien, qu'ils ont été pris par la foule, qu'ils ne pouvaient pas sortir. Le directeur dit, bien, je fermerai les yeux pour le moment. Sortant du bureau, Maxim dit à François, j'ai l'impression d'avoir renié les pauvres et les grévistes. François lui dit, tu n'y es pour rien, ce sont les autres qui t'ont forcé à le faire. Maxime lui dit, je suis plus près des pauvres que des riches. François lui dit, mais il faut feindre dans ce monde. Maxime lui dit, tu as raison, il faut cacher ce que l'on pense. Et puis les gens disent que les pauvres sont de la racaille, que les gens bien sont les riches. Et ils peuvent sortir tous les trois. Les jours passent. Maxime, entre son travail et ses amis, qu'il voit, ne fait plus attention à sa famille. Ferdinand est toujours le même. Il boit beaucoup et devient aigri. L'oncle court les filles de plus en plus jeunes. La mère reste à la maison, reçoit ses amis pour le thé, et semble indifférente à son mari. Mais fait une scène à son beau-frère parce qu'il vit une vie dépravée. On dirait qu'elle est jalouse de lui. Elle va toujours à la messe. Elle pense à son fils Ferdinand dans sa chambre et se dit qu'il est comme son oncle. Elle se dit qu'elle n'aurait pas dû se marier, vivre seule, et qu'il lui aurait arrivé des choses. La mariée, elle n'est rien. Oui, rien. Elle qui rêvait de puissance, elle n'est rien. Mais peut-être que lorsque son mari sera mort, elle mettra la main sur son fils qui va prendre la place de son père. Ce Maxime, il est bon, sérieux. Il pourra en faire ce qu'elle voudra. Et il est même beau garçon. Il ne cherche pas auprès des filles ni à se marier. Tant mieux s'il ne se marie pas. Parce qu'une fois marié, adieu la mère, il n'y en aura que pour la femme. Elle se dit qu'elle va surveiller ça. Lorsqu'elle organise une soirée, elle n'invite pas son fils. Elle n'insiste pas pour qu'il soit présent. Son mari est furieux.
elle lui dit. Pourquoi faire? Et puis, laisse-lui un peu de liberté. Il lui dit.
Mais c'est pas bien pour nous. Il doit être avec nous. L'on va dire qu'il préfère courir les filles. Après, comment ferons-nous pour le marier?
Elle lui dit. Ne fais pas de soucis pour ça.
Il lui répond. Si, justement, je m'en fais. Il est trop sérieux. Ne sort qu'avec des garçons.
Elle lui dit. S'il est sérieux, au moins, ça compense avec ceux qui ne le sont pas.
Il demande. Ça va pas recommencer.
Elle lui dit. C'est toi qui as parlé de ça.
Il lui dit. Non, j'ai dit que notre fils est trop sérieux.
Elle lui demande. Et pourquoi ne le serait-il pas trop?
Il lui dit. Parce qu'un jeune homme a besoin de se défouler.
Elle lui dit. Et qui te dit qu'il ne se défoule pas?
Il lui dit. Je le serai.
Elle lui dit. Nous avons la chance d'avoir un fils sérieux et nous en plaignons. Nous ne devrions pas nous en plaindre.
Il lui dit. Je m'en plains pas, mais il devrait sortir un peu plus et aller à nos soirées.
Elle lui dit. Ça ne doit pas l'amuser. Il n'y a pas de personne de son âge.
Il lui dit. Tu n'as qu'à inviter des jeunes gens, des jeunes filles.
Elle lui dit. Les jeunes préfèrent. Tu sais très bien être entre jeunes.
Il lui dit. De mon temps.
Elle lui dit. Le temps a passé. Et puis les jeunes veulent être plus libres maintenant.
Il lui dit. Je vais tout de même lui demander d'être là.
Et, dès qu'il le voit à la banque, il lui demande.
Pourrais-tu être à la soirée de ta mère?
Maxime lui dit. Ça ne me dit rien.
Mon père lui dit. Fais-le pour moi.
Maxime lui dit. Pourquoi?
Père lui dit, parce que c'est bien pour nous inviter que le fils de la famille y soit.
Ainsi lui demande. Demande-le à mon frère, lui aussi doit y être.
Mon père lui dit, ton frère n'est pas sérieux, je ne peux pas le présenter. Et puis, lorsqu'il sera à ma place, lorsque toi tu seras à ma place, pas lui, il faudra bien que tu y sois. C'est obligé d'inviter nos connaissances.
Mathieu lui dit, je ne sais pas si je le ferai. Et puis peut-être que je ne te remplacerai pas.
Le père est furieux. Et pourquoi?
Mathieu ne veut pas lui faire de la peine et lui dit, la vie peut nous apporter des surprises. Je peux mourir avant toi. Et puis tu es jeune encore et robuste.
Le père lui dit, je te remercie. Mais je ne veux pas te perdre. Tu m'es très cher. Quelle idée idiote, le père qui enterre son fils. C'est pas dans l'ordre de la nature.
Mathieu lui dit, ça c'est souvent vu.
Le père lui crie, arrête de parler comme ça. Ça va nous apporter la poisse. Tout ça parce que je te demande d'être à ma soirée. Tu crois que ça m'amuse, moi? Mais j'y suis obligé.
Mathieu lui dit, j'irai à ta soirée pour te faire plaisir.
Son père lui dit, merci, mon fils.
Maxime se dit, qu'est-ce qu'il faut en faire des choses pour faire plaisir?
Oui, pour faire plaisir, qu'est-ce qu'il faut en faire des choses?
Il faut tellement en faire qu'il ne reste plus de temps pour se faire plaisir. Non, plus de temps pour se faire plaisir.
Il assiste à la soirée de ses parents. comme il habite chez eux, ce n'aurait pas été facile de ne pas y assister, à moins de sortir ce soir-là. Il reste le plus longtemps possible dans sa chambre, mais est obligé de descendre. Il y a du monde comme toujours, tout Lyon, comme l'on dit, et même quelques personnalités de Paris. Le préfet est là, le maire, des patrons, des gens du monde et quelques artistes, mais pas des comédiens ou chanteurs, des écrivains, des peintres. Il y a des chirurgiens, mais surtout pas de médecins. Le primat de Gaulle est là, aussi, avec quelques membres de sa cour. Puis quelques jeunes filles, des jeunes gens. Plus on a d'invités importants, plus on est important. La mère, le père reçoivent les invités. Le père fait signe à Maxime pour qu'il vienne près d'eux. On présente Maxime comme un prince charmant qui a un bel avenir et est très sérieux. Les mères le dévorent des yeux en pensant à leur fille et à elle. Les pères touchent leur portefeuille, un fils de banquier. Maxime se sent gêné, il aimerait fuir. Enfin, la file des invités se termine, il n'y a plus personne à présenter. Les familles se séparent et vont voir leurs connaissances. Lui, Maxime, reste dans un coin. Plus personne ne fait attention à lui. Les gens parlent en groupe, en buvant du champagne et certains dansent. Une femme belle, rousse, dans les 25 ans, grande, mince, cheveux longs tombants, yeux verts très brillants, on dirait des diamants. Elle porte une robe longue, moulante, grise. Va à lui. Lui demande « Que faites-vous seul au milieu de la foule ?» Il lui dit « Rien, j'attends de pouvoir m'en aller. » Elle lui dit « Vous vous ennuyez ?» Mathieu lui dit « J'aime pas ce genre de soirée. » Elle lui sourit et lui dit « Vous êtes difficile. » Il y a du beau monde. Il lui dit, peut-être, mais moi et le monde. Elle lui demande, qu'aimez-vous? Il lui dit, je rêve de solitude et de partir dans des lieux lointains. Elle lui dit, racontez-moi ça. Il lui dit, j'aimerais retourner dans une montagne que j'ai vue lorsque j'étais enfant en Afrique. Une montagne magnifique avec des cimes enneigées. C'est là que j'aimerais aller. Si vous saviez comme c'est beau et la nature au pied de la montagne est un vrai paradis. Elle lui demande. Elle est loin? Il lui dit. Oui, il me semble que c'est difficile pour y aller. Très difficile, très pénible. Mais je veux y retourner parce que c'est le paradis pour moi. Elle lui dit. Pour grandir et laisser de côté vos vieux jouets. Maintenant, vous êtes un homme. Il lui dit, ça ne change rien. J'ai toujours ce désir en moi. Elle lui dit, peut-être, mais c'est une image. Cette joie que vous avez eue enfant. On ne peut pas revenir au paradis de l'enfance. Et puis, vous avez gardé de votre découverte que le bon côté. J'ai oublié les épreuves qu'il faut pour y accéder. Vous allez être séduit, déçu, et le plaisir sera gâché par les difficultés du voyage. Il lui dit, je ne le crois pas. Elle lui dit, il faut arrêter de rêver, il faut vivre, avoir une bonne situation dans la vie, fonder une famille, c'est ça être un homme. Il lui dit, pas pour moi, j'ai une bonne situation, comme vous dites, mais ça ne me dit rien. Et pour les femmes, la famille, je ne me vois pas m'occuper d'une famille, d'une femme. Elle lui dit, parce que vous n'avez pas trouvé la femme qu'il vous faut. Assez parlé, Pierrot Lunaire, faites-moi danser. Elle lui dit, tu veux bien,
mais je ne sais pas très bien. » Elle lui dit « Aucune importance !» Et il l'amène danser. Tout en dansant, elle se présente. « Delphine de Condorcet. Je suis veuve et vis seule. Et vous ?» Maxime Lafarge. Et elle lui fait « Ah ! Vous êtes le fils si intelligent et sérieux !» Il lui dit « C'est mes parents qui disent. » Parce qu'ils cherchent à me marier. C'est si fille, lui dit. Vos parents vous font une bonne réclame. Il lui demande, ça vous intéresse? Elle lui dit, le produit a l'air bien, mais savoir si à l'usage, vous savez, je suis très sérieuse. Il lui dit, moi aussi, et elle rit tous deux. Ils passent un long moment ensemble. Après, une fois que la soirée se termine, ils décident de se revoir. Ils se revoient, oui, ils se revoient, vont au concert. Au cinéma, c'est elle qui le veut. Restaurant, elle lui montre comment s'habiller. Tout le monde croit qu'ils sont fiancés, ça les fait rire. Même les parents et ses amis vont chez elle. Elle lui apprend à mieux danser. Un soir, qu'ils sont chez elle, elle lui dit
« Je vous aime ». Maxime lui dit, je ne peux vous aimer. Elle est triste et lui dit, je ne peux pas vous revoir parce que je vous aime trop.
Puis, elle rencontre à une soirée l'oncle. Elle lui dit, vous au moins, vous êtes un homme. Il en est fier. Après la soirée, ils vont chez elle et ils deviennent amants.
Non. Non.
Maxime ne le sait pas. Un soir, ils sont chez elle. Elle demande à l'oncle.
Pouvez-vous changer des billets allemands par des billets français?
Il lui dit, oui, bien sûr, ma petite chatte. Et elle lui donne une liasse de billets. L'échange se fait facilement.
parce qu'il travaille à la banque. Il lui donne l'argent. Et de temps en temps, elle lui en donne. Elle lui en donne de plus en plus à changer. Lui, pris d'amour, continue à lui échanger l'argent. Et puis un jour, il ne la voit plus. Elle a disparu. Il apprend par hasard que les billets qu'elle lui avait donnés étaient faux. Il se dit avec tristesse qu'elle s'est donnée à lui pour échanger son argent. Elle n'a pas pu le faire avec Maxime, parce que Maxime était pur. Et puis, il aurait peut-être été moins aveuglé par elle. Dès qu'elle avait su qu'elle ne pouvait pas s'en servir, elle s'est dit qu'elle pourrait rompre avec lui. La femme est retournée en Allemagne. Elle a apporté les billets à son agent qui lui a dit « Nous avons enfin de l'argent français !» Maxime ne sait rien de tout ça. Il pense qu'elle est partie, triste et déçue, parce qu'il ne l'aimait pas. Les jours passent. La vie reprend. Les parents sont tristes que ça n'ait pas marché avec la jeune femme. Mais à un thé, une amie de la mère lui dit « Je l'ai vue avec votre beau-frère. Vous savez, cette belle jeune femme qui sortait souvent avec votre fils. » La mère est furieuse et se dit que c'est la faute à Auguste qui a séduit la femme de Maxime. Et le déteste, en parle à son mari. Son mari lui dit « Cela a été séduite par mon frère, c'est qu'elle n'était pas une femme bien. » Mais la mère est furieuse. Puis, on n'entend plus parler de cette histoire, le temps passe. Le temps passe. Il passe vite le temps. Un jour, vient voir Maxime à son bureau un homme qui cherche un bon placement. Maxime lui parle des placements d'avenir. La chimie, l'automobile, le train, le cinéma. Et peut-être aussi l'aviation. L'homme accepte et dit. Lyon pourrait devenir une ville très importante du point de vue international. Mais ses dirigeants, la mairie, les syndicats patronaux de la ville sont trop traditionnalistes. Ils sont restés avec la bonne bouffe, guignol, les boules, la soie. Ils freinent le renouveau et empêchent que la ville devienne pour le monde, la ville qui a les nouvelles technologies cinématographiques sera prise par Paris et les Américains, l'automobile par Paris, l'Amérique et l'Allemagne. Ne voyez pas que le monde bouge et ceux qui mettent en avant ce pour la ville est dépassé. Vous allez voir, tel que je les connais, ils vont mettre les bâtons dans les roues aux patrons qui sont dans les nouvelles techniques. Maxime lui dit, vous avez raison, mais vous pouvez investir en plus de Lyon à l'étranger. On fait les affaires partout. De toute façon, Lyon sera toujours une ville de province et pantouflarde. On veut que rien ne change, surtout pas les affaires. Regardez les pentes de la Croix-Rousse. Eh bien, je suis sûr que dans 100 ans, elles seront comme elles sont maintenant, avec ses rues étroites, dégueulasses, et ses logements insalubres. Le temps passe.
Un après-midi,
Le père est à son bureau. Se sent tout d'un coup mal. Il est tombé inanimé. Le secrétaire entre dans le bureau et le voit. Vite, il va prévenir Maxime. Venez vite. Maxime accourt. Il voit son père. Inanimé, dans le bureau. Père, il faut prévenir un médecin. Vite, il faut prévenir un médecin. On va prévenir un médecin. Le médecin arrive. Il examine le père. Le père reprend connaissance. Le médecin dit, il faut l'amener chez lui, de suite. Maxime prend son père pour le ramener chez lui. Il a repris connaissance. Maxime et sa mère le couchent. Le père est dans son lit. Le médecin les a accompagnés, dit à la mère, « Votre mari a eu une attaque, il faudra bien le surveiller. » Il risque, c'est à tout instant, de mourir. Elle est effondrée. Oui, effondrée. Maxime aussi. Le père se sent mieux, mais sait qu'il est arrivé quelque chose de très grave. Il sait qu'il risque de mourir. Alors, il sonne pour faire venir la domestique. Frappe à la porte. Entrez. Elle entre. Il lui dit, c'est à mon fils, Maxime, de venir me voir. Bien, monsieur. Elle se retire. La bonne va retrouver Maxime au salon. Entrez. Il est près de sa mère qui pleure. La domestique lui dit, monsieur, votre père vous demande. Maxime se lève et dit, bien, j'y vais. Maxime va voir son père. Monsieur, votre père vous demande. Maxime se lève et dit, bien, j'y vais. Maxime va voir son père. Et lui dit, approche-toi. Maxime s'approche. Mon père lui dit, je sais que je n'en ai plus pour longtemps. Écoute-moi bien. Il faut absolument que tu prennes ma place. Maxime est ému, lui dit, mais père. Mon père lui dit, chut, ne dis rien. Ça ne sert à rien. Je sais que je suis perdu. Fais ce que je te dis de faire. Maxime lui dit, je vous promets, père, je ferai de mon mieux. Mon père lui dit, c'est bien, mon fils. C'est à toi, maintenant, de prendre ma place. Il faut rapidement préparer les papiers chez le notaire. C'est un ordre, tu m'entends. Maxime lui dit, bien, père. Allez, va. Maxime se retire. Il va retrouver sa mère au salon.
que veut son père. Sa mère, surprise, dit : tu ne peux pas faire autrement que lui obéir.
Et Maxime va en parler à son notaire qui prépare les papiers. Lorsque les papiers sont faits, Maxime et le notaire, qui est un gros homme chauve habillé d'un costume marron, ils vont dans la chambre du père. Le père et Maxime signent les papiers. Le notaire dit à Maxime : désormais, c'est vous qui êtes le patron de la banque. La mère effondrée en parle à Ferdinand lorsqu'elle le voit. Elle lui dit : ton père a eu une attaque. Il s'est senti perdu. Alors il a demandé à Maxime de le remplacer à la banque et de prendre la présidence. Ferdinand est furieux. Et moi alors ? Elle lui dit : c'est la volonté de ton père. Nous n'y pouvons rien. Ferdinand lui dit : Maxime aura tout et moi rien. Sa mère lui dit : nous ne pouvons rien. Les papiers ont été faits. Oui, les papiers ont été faits. Ferdinand est furieux. Il ne va même pas voir son père parce qu'il voit Maxime en a envie de le tuer. Puis il réfléchit et se dit : mon père n'est pas encore mort. Lorsqu'il sera mort, je pourrai faire annuler le testament. Et les jours passent et le père est encore en vie. Ce qui rend furieux Ferdinand parce qu'il voit que Maxime prend la place de son père. Ça le rend malade. Une nuit, que tout le monde est couché.
Ferdinand sort de sa chambre sans faire de bruit. Et entre dans la chambre de son père. Il est réveillé, la lampe du chevet est éclairée. Il lui prend : tu désires quelque chose ? Ferdinand ne dit rien. Il avance vers le lit. Puis, d'un geste brusque, il prend l'oreiller qui est à côté de son père. Et le plaque contre le visage de son père, qui ne peut se défendre. Il est trop affaibli. Il appuie très fortement sur l'oreiller, sur le visage. Son père essaie de se défendre, mais il ne peut pas. Au bout d'un moment, le père ne bouge plus. Alors Ferdinand lâche l'oreiller. Il voit le visage de son père fixe. Il remet l'oreiller en place. Il voit le visage de son père fixe. Et sort de sa chambre. Il sort de la chambre. Pour aller à la sienne. Le lendemain matin, la bonne frappe à la porte de la chambre du père. Pas de réponse. Elle sait qu'il est très malade. Alors elle entre dans la pièce. Et là, elle voit qu'il est mort. Vite, elle va annoncer la nouvelle à sa maîtresse. Frappe à la porte. Entrez. Elle ouvre dans la chambre de sa maîtresse. Madame, il est arrivé un grand malheur. Monsieur, je crois
Qu'il est mort. Henriette, vite, sors du lit. En chemise de nuit, va à la chambre de son mari. Et vois qu'il est mort.
Elle va prévenir Maxime et le médecin. Le père est enterré. Le temps passe. Maxime a pris la présidence. Ferdinand veut faire un procès contre le testament de son père. Il le dit à sa mère. Qui lui dit : surtout pas, ça fera un très mauvais effet pour nos clients. Ne fais pas ça et attends. Ferdinand, furieux, attend. L'oncle aussi rêve de prendre la place de son frère. Il souhaite que Maxime s'en aille. Maxime, triste, se sent enfermé dans une vie qu'il n'aime pas. Mais par respect pour son père, il fait bien son travail. Mais toujours avec sa mère, pour ne pas la laisser seule. Le temps passe.
Si le prince était ici, dirait-on encore que je n'ouvre la bouche que pour lâcher des sottises.
Un soir, à une soirée de la mer, l'oncle voit au milieu des invités une jeune fille qui doit avoir dans les 20 ans. Elle est grande, mince, blonde, cheveux longs, visage allongé, très pur. Elle porte une robe blanche. L'oncle est éblouie par cette jeune fille. Il en tombe amoureux. Immédiatement amoureux. C'est exactement ce qu'il cherchait, une jeune fille pure, belle, parce qu'il y en a assez de ces femmes qu'il fréquente. N'ose pas l'aborder comme ça. Alors il demande à Maxime qui est cette jeune fille. Maxime lui demande qui. L'oncle lui montre. Maxime réfléchit et dit : c'est la fille d'un de nos clients, Monsieur Durand, je crois, qu'elle s'appelle Jeanne. L'oncle lui dit merci et court vers la jeune fille. Il lui dit : mademoiselle, je vous trouve charmante. J'aimerais c'est faire votre connaissance. Elle regarde surprise. Elle lui dit : bonsoir, monsieur. Il lui dit : désirez-vous danser avec moi ? Elle lui dit : mais je ne vous connais pas, monsieur. Il lui dit : je suis l'oncle du président de la banque. Elle lui dit : Bien, monsieur, mais je ne danse pas avec vous.
Mais pourquoi, mademoiselle?
Elle lui dit, parce que, monsieur. Elle se retire. Elle connaît la réputation de cet homme qui court les femmes. L'oncle reste dépité et furieux. Il faut absolument qu'il revoie cette personne. Alors, le lendemain matin, à la banque, il se renseigne, prend le fichier du père et voit qu'il habite, où il habite et quelles sont ses affaires. Il décide d'y aller vers son domicile. Le père Durand habite à Charbonnières. Grande maison au fond d'un parc, la maison est du 19e siècle, toute blanche. L'oncle arrive devant la maison. Il ne sait comment faire. Il attend dans la rue et se dit que peut-être la chance sera pour lui. Et le portail de la propriété s'est ouvert. Apparaît la jeune fille. L'oncle accourt à elle. Elle le voit furieuse. Il lui dit, « Bonjour, mademoiselle, vous allez bien depuis hier au soir ?» Elle lui dit, « Mais monsieur, laissez-moi !» Et se met à courir. L'oncle n'ose pas lui courir après. Il s'en retourne, penaud. Une fois chez lui, il réfléchit et se dit qu'il ne peut pas se comporter avec une fille comme il se comporte avec les femmes qu'il a connues alors qu'il doit se tenir comme avec une jeune fille. Il faut qu'il fasse sa demande au père. Il décide d'aller voir le père. Sonne au portail. Le portail s'est ouvert, c'est un domestique chauve qui lui demande. Que désirez, monsieur? Donc il dit,
bonjour, j'aimerais. J'ai parlé à votre maître, s'il vous plaît.
Domestique lui demande.
Vous êtes monsieur? Auguste lui dit. Je suis Auguste Lafarge, les banques Lafarge.
Le domestique lui dit. Bien, entrez, monsieur.
Dans la maison et le mène au salon. Entrez, monsieur. Je vais voir si monsieur peut vous recevoir. Et il laisse Auguste seul. Le salon est 15 billets d'or. La porte s'ouvre et apparaît un homme grand, assez distingué, cheveux blancs,
La visite, il regarde l'autre mari. Il demande à Auguste. Je vais demander à me voir, monsieur. Auguste dit, oui, monsieur. Le père lui dit, eh bien, asseyons-nous. Ils vont s'asseoir tous les deux l'un face de l'autre. Dans des fauteuils, le père demande, je vous écoute, monsieur. Donc, lui dit gêné parce que c'est la première fois que ça lui arrive. Eh bien, voilà, monsieur, j'ai rencontré par hasard votre fille et j'en suis tombé follement amoureux. Je souhaiterais de pouvoir faire la cour, que nous puissions nous fiancer. Le père est surpris. Il lui dit, monsieur, je vous remercie. Je suis flatté de votre offre, mais je ne sais si je dois accepter. Vous connaissez ma fille depuis combien de temps? Donc lui dit, je l'ai vue à la soirée hier au soir de ma belle-sœur. Le père est flatté et surpris, lui dit, c'est un beau cours, monsieur. Vous devez connaître à peine ma fille et ma fille doit vous connaître à peine. Lui se dit, nous pourrions peut-être c'est faire des fiançailles assez longues pour que vous puissiez, enfin, assez longues, si vous puissiez me permettre de la voir. Le père lui dit, je vais y réfléchir, monsieur, je vais en parler à ma fille. Il se lève et dit à Auguste, excusez-moi, mais il faut absolument que j'aille à mon travail. Donc se lève. Bien, je vous remercie de m'avoir reçu. Et il le quitte. Le père surpris. On voit sa fille qui est à sa chambre. Frappe à la porte. Entrez. Il entre.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, D'Homme. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.